Radio Kapi.
Au sommaire, le choléra et la malnutrition font des victimes parmi les réfugiés congolais dans les camps de transit de Gatumba au Burundi. Dans moins de 10 jours, une quarantaine de personnes sont mortes. Il faut éviter le pire, alerte les réfugiés congolais. Kasaï Central, les violences basées sur le genre et l'espacement de naissance ont été hier jeudi à Kananga l'objet d'une séance de sensibilisation. C'était au cours d'une rencontre organisée par l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. L'invité de ce journal est le professeur Marcel Ngoyawe Mefir, enseignant à l'université d'Ngaoundéré au Cameroun. Il parle de l'impact que pourrait avoir l'ouverture de l'école de diplomatie, négociation et médiation à l'Université des Martyrs du Congo pour l'année académique 2025-2026 à Goma. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le choléra et la malnutrition font des victimes parmi les réfugiés congolais dans le camp de transit de Gatumba au Burundi. Une quarantaine de personnes sont mortes dans moins de 10 jours. Le maire adjoint d'Uvira a présidé une rencontre avec la diaspora congolaise de Bujumbura pour trouver des solutions palliatives. Les représentants des forces vives des réfugiés venus d'Uvira étaient aussi de la partie. Des explications de Jean Kassami.
Ce bilan interpellateur a été annoncé lors d'une rencontre tenue ce jeudi 18 décembre au centre scolaire congolais de Bujumbura au Burundi. Ce jeune hébergé, lui aussi, dans les camps de transit de Gatumba, déplore le pire si la situation demeure telle qu'elle est vécue actuellement.
Les réfugiés vivent dans des conditions très mauvaises, dans le brigade et d'autres dans des camps de transit. Hier, il y a eu 8 personnes qui sont mortes. Avant, il y a eu 5. Aujourd'hui, on compte au moins plus de 30 personnes qui sont mortes de choléra parce qu'il n'y a pas d'eau potable. La faim aussi, il y a aussi les gens qui manquent même à manger. Les enfants sont affamés. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais de voir comment ils peuvent faire des plaidoyers. Parce qu'un réfugié a le droit de manger, a le droit de prendre une eau potable.
Le maire adjoint d'Uvira lui-même réfugié demande au gouvernement et aux organisations d'aide humaine humanitaire de tourner les regards sur ces camps qui hébergent environ 30 000 réfugiés congolais qui ont fui l'assaut de l'AFC M23 sur la ville d'Uvira. Un comité de crise pour canaliser les assistances aux réfugiés du site de transit de Gatumba a été mis en place. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, plus de 23 000 personnes, soit environ 4 700 ménages, ont récemment trouvé refuge le long de l'axe Birundule, Iobora, Bulindi, dans la zone de santé de Kibirizi. L'organisation locale Veille Humanitaire de Bwito, qui publie ses chiffres à travers le site humanitaire Tools, indique que ces familles ont fui l'agglomération de Katekou et ses environs. Dans ces entités du territoire voisin de Walikale, ces personnes ont été contraintes par les rebelles de l'AFC M23, invoquant des raisons sécuritaires, d'après plusieurs témoignages locaux. Des détails avec Ronelin Tibonera Idi Amin.
Originaire des villages de Katekou, Mukigi, Lubwe et Kasungu, dont le groupement Ikobo Walikale, les 23 580 personnes ont pris la direction de la chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Elles sont actuellement réparties dans le village de Bulindi, Bueri, Birundule et Lyobura. Selon les sources humanitaires, ces nouveaux arrivants s'ajoutent à des milliers d'autres déplacés présents depuis plusieurs mois, ce qui accentue leur vulnérabilité. Les habitants qui les accueillent sont eux-mêmes privés d'accès à leurs champs en raison de l'insécurité. Pour rappel, le 10 décembre dernier, l'AFC M23 avait ordonné aux populations civiles de quitter Katekou et ses environs, prétextant des attaques répétées des miliciens Wazalendo avant de lancer une opération de ratissage. Cette injonction a provoqué un exode massif vers le sud du territoire de Lubero pour certains et vers le nord de Bwito pour d'autres. Actuellement, dans la chefferie de Bwito, quelques ONG apportent une assistance en matière de santé, d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Cependant, les comités locaux de déplacés alertent sur l'urgence d'une aide alimentaire et de la fourniture d'articles ménagers essentiels.
Nord Kivu encore, la circulation a repris difficilement hier jeudi sur la route Beni-Butembo, longue de 52 km. C'est après plusieurs jours d'interruption causée par les fortes pluies qui se sont abattues ces dernières semaines sur la région et qui ont dégradé la chaussée. Les commerçants accusent des pertes énormes. L'office des routes et l'entreprise attributaire des travaux d'entretien de ces tronçons sont à pied d'œuvre pour rendre la circulation plus fluide. Marc Marofimbo pour plus de détails.
Depuis des semaines, la circulation sur l'axe Beni-Boutembo est devenue un calvaire pour les usagers, dont certains sont obligés de passer la nuit en route. Des gros bourbiers sont observés dans les localités telles que Kalunguta, Maboya, Kisalala, à une vingtaine de kilomètres de Beni. Des camions remplis de marchandises se rendant à Bunia, Mambasa, Kisangani ou dans la cité frontalière de Kasindi sont immobilisés à ces endroits. Seules les petites voitures de transport en commun passent mais difficilement, comme témoignent ces conducteurs. De Boutembo, la route est problématique à Kisalala et à Maboya. Ils ont commencé à dégager les camions et même cellules rapides de marchandises qui s'est renversée à Kisalala, bloquant ici tout passage. Et même avant d'atteindre Kalunguta, où les ingénieurs ougandais de d'autres services travaillent, c'est aussi problématique. Si seulement une petite pluie pleuvait encore, les passages seraient bloqués à nouveau, car cet état actuel de la route est conséquent de 2 jours de pluie dans la région qui a occasionné tout cet embourbement des véhicules. Depuis le début de cette semaine, la compagnie d'autres services qui s'occupe de l'entretien de cette route et l'office des routes s'active pour dégager tous les camions renversés ainsi que ceux coincés dans les bourbiers, ce qui a facilité la reprise partielle du trafic, mais pour les voitures. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Je suis venu à Bunia pour suivre l'évolution des projets en cours du gouvernement central pour la modernisation des infrastructures dans la province de l'Ituri. Propos du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, arrivé hier jeudi à Bunia. Il est accompagné d'une forte délégation de 30 membres, dont des députés et sénateurs des provinces de l'Ituri, du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, ainsi que du Nord-Kivu. Je vous écoute de l'écouter. Ce propos ont été recueillis par Marcel Kizabia Mungu.
Vous êtes témoin de la transformation de la province de l'Ituri. Nous sommes en guerre, mais le président de la République construit son pays. Imaginez un seul instant si nous n'étions pas en guerre. Nous avançons malgré la guerre. Il était impossible d'atterrir ici avant l'arrivée du président Tshisekedi avec un jet, avec des moteurs à réacteurs. Je viens d'atterrir avec un jet, avec des moteurs à réacteurs. C'est-à-dire que le Congo avance, la province de l'Ituri avance, et elle avance parce que le président Tshisekedi la tire vers le devant, comme il tire l'ensemble du. Nous sommes ici et vous êtes témoin de tout ce qu'il est en train d'entreprendre ici. Donc c'est ici l'occasion d'adresser un message de solidarité par notre présence, la solidarité du gouvernement central, dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, que la province de l'Ituri, comme toutes les autres provinces, est une priorité nationale.
Outre les travaux de modernisation de l'aéroport de Bunia, l'agenda du ministre Banza prévoit également la visite du chantier de l'université de Bunia et des installations de la société Good News Africa qui exécute les travaux d'asphaltage d'une vingtaine de kilomètres de la voirie urbaine de la ville de Bunia. Les violences basées sur le genre et l'espacement des naissances ont fait l'objet d'une séance de sensibilisation menée hier jeudi au village Katwambi dans le Kasaï central. Cette activité était organisée par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Reportage André Katendenga Lamouloumé.
Selon Marie-Claire Mbia, chargée des programmes COICA à l'ONG FMDI, le choix du village Katwambi n'est pas un hasard. Il s'agit de l'un des villages le plus touché par les violences basées sur le genre. De plus, la population n'avait jamais bénéficié auparavant d'une telle sensibilisation. Cette initiative était saluée par les habitants et les autorités locales. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur engagement à lutter contre le VBG. C'est notamment le cas d'Esther Ngalula qui promet de ne plus garder silence. Concernant les violences basées sur le genre, il y avait certains actes qu'on voyait sans savoir les conséquences et sans dénoncer. Maintenant qu'on nous a sensibilisés, nous allons dénoncer car ça nous faisait reculer. Pour renforcer cette action, le Centre intégré des services multisectoriels de Lukonga a déployé une clinique mobile. Celle-ci a offert une prise en charge médicale, psychosociale et juridique, ainsi que des services de santé sexuelle et reproductive. Kananga, André Katindenga Lamouloumé, Radio Kapi.
À l'approche des fêtes de fin d'année, les services de sécurité sont appelés à redoubler de vigilance à Kinshasa. Appel du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, qui insiste sur la nécessité d'une alerte maximale pour prévenir la criminalité et le banditisme. Il s'est exprimé à l'issue d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie tenue hier jeudi à Kinshasa. Cette rencontre a réuni les gouverneurs de la ville, les bourgmestres des communes, les chefs de quartier et des rues, ainsi que les responsables des services de sécurité. Objectif, anticiper et prévenir les risques sécuritaires liés aux festivités des fins d'année. On l'écoute dans ce propos recueilli par Grâce Hamzati Massanzi.
La réunion d'aujourd'hui est faite suite à une décision orientation issue du dernier Conseil des ministres qui veut à ce que nos provinces, les 26 provinces de la République démocratique du Congo, prennent des dispositions sécuritaires pour permettre à nos populations de mieux passer la période des festivités de fin d'année. Ce qui fait que nous sommes retrouvés dans ce format assez large et riche avec non seulement les responsables des entités, mais aussi les responsables des différents services de sécurité pour identifier, analyser et trouver des solutions aux différentes causes et indicateurs de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, où nous avons partagé toutes ces questions et pris certaines résolutions qui nous rassurent que les Kinois vont passer les festivités dans des conditions de sécurité les meilleures. Le même exercice va se dérouler dans les différentes provinces sous la direction des gouverneurs de province. Les instructions sont données aux services de sécurité, ce sont des instructions internes qui découlent principalement des analyses et des constats qui ont été faits au cours de cette réunion.
L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a sensibilisé hier jeudi les étudiants de l'Université de Kinshasa aux différentes formes de traite des personnes. Le message central portait sur le rejet du mariage forcé, du travail et de la mendicité forcée, ainsi que l'exploitation sexuelle et du trafic d'enfants et d'organes. L'OIM a rappelé que la traite des personnes constitue un processus par lequel les individus sont maintenus en situation d'exploitation pour des raisons économiques. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des migrants, célébrée chaque année le 18 décembre. Reportage de Josué Kefebi.
Il y a beaucoup de Congolais, quand même la Nigeria, quand même la Ghana.
Les échanges avec les étudiants de l'Université de Kinshasa ont débuté par la distribution des tracts appelant à dire non à la traite des personnes. L'équipe de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a mobilisé les jeunes dans l'objectif de les former et de les informer afin de mieux les protéger. Alexandre Simpson, chef de la mission de l'OIM en RDC.
Si les gens ils sont bien informés, ils peuvent se protéger eux-mêmes. Et c'était vraiment de partager des informations où on peut trouver davantage les informations. On a la ligne verte 122 où ils peuvent appeler.
Pour certains étudiants, cette sensibilisation était une découverte, tandis que d'autres ont salué l'initiative de l'OIM.
Oui, je crois bien, c'est la première fois. Je n'étais même pas au courant par rapport aux fausses demandes d'emploi. Comme maintenant je suis informé, je vais faire très attention de ne pas m'aventurer dans ce genre de terrain.
C'est une bonne initiative que l'OIM a pris déjà, pouvoir donner la possibilité à ceux que nous puissions dénoncer ce genre de choses.
La campagne s'est poursuivie avec des panels organisés sous les thèmes « Mon histoire, culture et développement ». Selon Alexandre Simpson, cette démarche illustre la puissance de la migration dans le partage d'une vie commune à l'échelle mondiale.
En Ituri, le centre-ville de Bounia retrouve petit à petit ses trottoirs. Ceux-ci avaient presque disparu depuis des années. Dans ses efforts de modernisation de la voirie urbaine de cette ville de près de 2 millions d'habitants, le maire avait demandé aux propriétaires des parcelles situées le long des routes asphaltées de pavés leur déventure et trottoirs. Aujourd'hui, Bounia retrouve une nouvelle beauté avec en plus une diminution sensible des cas d'accidents chez les piétons. Martial Kizabiamungu a fait le tour de la ville. Voici son reportage.
Il est 10h locale, nous sommes sur la rue Ituri, non loin de l'ancien siège de Soficom. Jérôme Eliassa, la quarantaine, habillé en tenue de ville, marche aisément sur les trottoirs pour aller à son lieu de travail. Il exprime son plaisir de faire les pieds comme on dit ici et surtout sans poussière ni boue, ce qui n'était pas le cas dans les passés.
Tout le monde est passé sur la grande route et il y avait trop d'accidents. Pour le moment, on se sent à l'aise.
Ces déventures, jadis envahies par des vendeurs de friperies et autres petits commerçants, servent aujourd'hui pour les piétons, mais aussi pour les sports qui font du jogging en toute sécurité, matin et soir, sans grand risque de se faire cogner par un véhicule. Joseph Reiba marche tous les jours pour se rendre à son université. Il souhaite que d'autres routes de la ville soient asphaltées pour que les trottoirs soient embellis.
Et qu'il y ait une amélioration des étangs de route.
Les maires policiers de Bounia encouragent ceux qui n'ont pas encore pavé le déventaire de leur parcelle située le long des routes asphaltées de les faire à bons citoyens pour rendre Bounia encore plus belle qu'avant. Depuis les centres-villes de Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'invité. Quel impact pourrait avoir l'ouverture de l'école de diplomatie, négociation et médiation à l'Université des Martyrs du Congo, UNIM RDC, pour l'année académique 2025-2026 à Goma? Cette question, nous l'avons posée au professeur Marcel Ngoyawe Mefir, enseignant à l'université de Ngouandéré au Cameroun. Ce dernier a animé la semaine dernière un séminaire consacré à la communication diplomatique organisé du lundi 15 au mercredi 17 décembre à Goma. Le professeur Mefir partage en plus son appréciation quant à la présence de cette institution dans une région marquée par des conflits complexes depuis plusieurs années. Suivons-le dans cet échange accordé à Bernard Nyangui.
Professeur Mefir, bonjour.
Quelle est l'appréciation que vous avez par rapport à la présence ou à l'ouverture de cette école dans cette ville de la République démocratique du Congo?
Notre appréciation de l'ouverture d'une école de diplomatie, de médiation à l'UMIM ne peut qu'être, s'il fallait résumer cela en un mot, nous dirons enfin. Enfin, pas dans le sens du timing, parce que comme nous le savons, toute chose bonne n'arrive qu'à point nommé. Mais enfin, dans le sens de la pérennisation de cette vision globale de l'UMIM, parce que nous savons que la création de cette école entre en droite ligne avec les objectifs spécifiques que s'est fixé l'UMIM, à savoir œuvrer scientifiquement et techniquement au travers de la soft power à mettre un terme à ces conflits pluriels que subit la RDC depuis des décennies. Donc, c'est du pain béni, c'est quasiment une manne, et je sais que les apprenants, les auditeurs, les étudiants sauront s'en saisir, surtout que nous sommes là dans une formation professionnelle. Et les écoles professionnelles ont cette particularité de faire plus de pratique que de théorique.
Et donc, professeur, vous estimez que cette école aura un impact surtout dans cette partie de l'Est de la RDC qui est affectée par la crise sécuritaire des conflits multiples?
Donc, c'est une bonne occasion qui est offerte afin que les fils et les filles de la RDC soient équipés, soient outillés afin d'être des médiateurs, des facilitateurs, des négociateurs, détenteurs d'une expertise avérée pour pouvoir résoudre les conflits en cours, ou ça permettra en fait d'anticiper sur des conflits à venir. Car nous sommes de ceux qui croyons que mieux que quiconque, le natif d'un environnement subissant des troubles, des crises, des conflits, équipé, outillé, est à même d'apporter des solutions, de faire des médiations, de faire des négociations à longue durée. Quelqu'un qui ne vit les crises de la RDC qu'au travers des livres, qu'au travers des médias, puis des réseaux sociaux, quelle que soit son expertise, ne sera pas aussi perspicace et aussi efficace qu'un fils et qu'une fille de la RDC équipée, enseignée, outillée en négociation, médiation et en diplomatie. Donc nous faisons usage de cette opportunité que vous nous offrez pour dire un grand bravo à l'administration de l'École nationale de diplomatie, de négociation et de médiation.
Vous venez de dispenser ce cours sur la communication diplomatique. Qu'est-ce que vous pensez que ce cours-là peut développer comme compétence aux apprenants?
Concernant le séminaire sur la communication diplomatique et le leadership stratégique que nous venons d'avoir le privilège d'animer, nous dirons que les compétences acquises par les apprenants sont, entre autres, la compréhension des principes et des fonctions de la communication diplomatique. Nous sommes allés au-delà de la diplomatie générale pour spécifier sur la diplomatie de crise et la diplomatie en temps de crise. L'autre compétence acquise, c'est la capacité de penser la communication comme un instrument de pouvoir. Pouvoir dans le sens de résoudre les conflits, pouvoir dans le sens d'un outil de médiation, de pacification. Autre compétence, c'est celle de la capacité pour les auditeurs, les apprenants, d'articuler la théorie et la pratique. C'est ça, en fait, la spécificité des formations professionnelles. 30% théorie, 70% pratique. Donc, ce sont des compétences acquises au travers de ce séminaire. Il y a également la capacité de parler, de négocier et de décider dans des contextes troubles.
Merci, professeur.
Merci.
C'était l'invité de ce journal, le professeur Marcel Nguya Wemefir, enseignant à l'université Ngaoundéré au Cameroun. Il s'entretenait à Goma avec Bernard Nyangui. Ceci met fin à cette édition de formation. Merci à vous de l'avoir écouté.